Ce matin, nous sommes toujours au désert avec le Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 5, le récit de la tentation au désert continue avec ces mots. Le diable emmena Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas ». Car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 218, les strophes 1, 2 et 3 dans les prières. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, amour qui se propose à mon alliance, qui suscite en moi la vie, feu brûlant qui ne s'éteint jamais, consume mes passions pour qu'elles deviennent dons. Aide-moi à faire de moi dans le silence et l'effacement absolu, un espace illimité pour que ta présence infinie de lumière et d'amour y naisse et s'y révèle. Apprends-moi à te découvrir sans cesse et sois la respiration de ma vie, mon ciel intérieur, mon soleil caché, ma tendresse, et que je puisse, par ta grâce, refléter ton visage à tous mes frères. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Être fille et fils de Dieu nous donnerait-il le droit de braver ainsi la mort ? Qu'on ne se méprenne pas sur le problème que pose ce texte. Le diable de l'évangile de Matthieu ne demande pas à Jésus de se suicider. Il ne s'agit pas de se jeter dans le vide pour se donner la mort volontairement, mais bien plutôt d'aller vérifier qu'on est immortel, parce qu'on a acquis le statut d'enfant de Dieu. Le diable n'a pas réussi à provoquer Jésus la première fois en l'incitant à combler immédiatement ses besoins. La faim n'a pas pu provoquer la chute de ce nouvel Adam adopté par Dieu lors de son baptême. C'est maintenant d'une autre façon qu'il provoque Jésus. L'arme de division, cette fois, c'est celle de la lecture littérale de l'Écriture et de la véracité de la parole de Dieu. L'évangile de Matthieu met dans la bouche de ce provocateur intime les paroles du psaume 91 qui décrivent la protection qu'octroie Dieu à ceux qui croient en lui. Dans ce psaume, celui qui aime Dieu, celui qui lui obéit, est déclaré hors d'atteinte de tout mal, de la violence des hommes comme de la fatalité, de la maladie ou de la catastrophe. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le jeune lion et le dragon. Puisqu'il s'est épris de toi, je lui donnerai d'échapper. Pardon, puisqu'il s'est épris de moi, je lui donnerai d'échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, dit le Seigneur. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse et je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de la longueur des jours et je lui ferai voir mon salut. Dans ce psaume, qui raconte la relation du psalmiste avec son Dieu et qui ressemble bien davantage à une confession de foi qu'à une exaltation d'un brave la mort, dans ce psaume, l'élu de Dieu n'a rien à craindre, en effet, car Dieu s'est épris de lui. On y découvre une véritable déclaration d'amour. Comme le dit aussi Dieu dans le livre d'Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Nous savons tous, pour le vivre chaque jour, que la fidélité de Dieu n'est pas comptable de notre foi. Sinon, il aurait vite désespéré. Une épidémie ne tue pas que les mécréants, nous l'avons bien vu, et ceux que le psaume nomme les méchants, nous sommes bien placés pour le savoir. Si le cancer ne frappait pas aussi ceux qui confessent leur foi en Dieu, les fidèles seraient encore plus nombreux dans cette église aujourd'hui et s'y trouveraient entre gens de bonne et pieuse compagnie, sans jamais avoir à se rendre dans les hôpitaux. Ils seraient exemptés de tous ces maux. Les hommes comme Dietrich Bonhoeffer n'auraient pas été victimes de la barbarie nazie, puisqu'ils avaient la foi. Ils auraient échappé au pire par la seule foi qu'ils avaient et qui les animait, et par leur mérite aux yeux de Dieu pour construire le royaume de Dieu. Les théologies de la prospérité dans notre monde actuel, qui cherchent à attirer dans un acte prosélyte les fidèles en mal de secours et de protection, utilisent volontiers cet argument marketing d'un salut commensurable à la foi et à l'observance des règles morales indiquées par des spécialistes de la vie chrétienne. Ils savent comment doit être un chrétien. Celui qui s'y conforme le plus étroitement est alors déclaré le plus aimé de Dieu. Et la prospérité de ses affaires, même matérielles, devient alors une preuve que Dieu le bénit et l'aime vraiment. Malheur à tous ceux qui vont si mal dans notre société. La provocation diabolique, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, est une provocation à la preuve. Le diable incite Jésus à obtenir une preuve de l'amour de Dieu pour lui. Ainsi, la foi de Dieu en Jésus et la foi de Jésus en Dieu, cette alliance basée uniquement sur la confiance et sur l'amour mutuel, est-elle pervertie par une faille qui vise à mettre en doute ce qui la fonde même? Le diable ressemble à ces humains pervers qui, mettant en doute l'amour de l'autre, se mettent en danger pour vérifier combien l'autre tient à eux. Mais la foi n'a par définition rien à prouver. Et c'est ce qui la différencie de la superstition et de la perversion. Cette deuxième tentative de pervertir la foi de Jésus au désert est une mise à l'épreuve de l'amour de Dieu pour l'homme. Me sauvera-t-il si je tombe ? Ils sont tellement nombreux, les croyants qui cherchent des preuves de l'existence et de l'efficacité de Dieu sur cette terre, qu'il semble que toute religion soit enfermée dans cette fatalité de la preuve. On imagine des économies du salut dans lesquelles le prix à payer est plus ou moins accablant pour l'homme, plus ou moins matérialiste, plus ou moins pervers aussi. Cela va des dévotions en tout genre dans lesquelles le fidèle s'acquitte de tâches qui sont censées plaire à Dieu et qui doivent être quand même un peu désagréables, des pèlerinages, des sacrifices, des ascétismes culpabilisants, des renoncements aux désirs profonds de chacun, renoncements à ce qui fait que nous sommes des êtres de chair tout simplement. Les sources chrétiennes, tous ces textes très édifiants qui relatent les histoires des pères de l'Église, regorgent de récits étranges où les hommes martyrisent leur vie et leur corps pour plaire à un Dieu qui est pourtant révélé comme Dieu de la vie dès le récit des patriarches. C'est ainsi que l'on décrit Simon le stylite passant sa vie sur une colonne, ou encore les femmes emmurées vivantes, croupissant dans leurs excréments pour plaire à Dieu. Et alors, quelle preuve de l'amour et du salut de Dieu auront-ils obtenu ces saints de Dieu? Pourquoi souffrir autant? Cette culture de la preuve théologique a inspiré aussi les tribunaux qui jugeaient les sorcières dans une chrétienté qui confondait le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ceux qui aujourd'hui jugent encore la véracité des miracles semblent chercher des preuves, parfois matérielles, de choses d'un autre ordre pourtant. Mais de quelle autorité se réclament-ils et aux critères de quel règne se réfèrent-ils pour juger l'authenticité d'un miracle? Ce qui est miracle pour l'un ne l'est peut-être pas pour l'autre. Pourquoi substantialiser un miracle? Celui de Dieu ou celui des hommes? Quel est le critère? La foi des saints de Dieu, comme les appelle la Bible, ceux qui mettent tout simplement leur confiance en lui, ne suffit-elle pas à reconnaître la présence salutaire de Dieu à leur côté? Où est la fidélité à cette grâce divine qui calme nos peurs et nous dit « Ma grâce te suffit, elle s'accomplit dans ta faiblesse ». À cette mise à l'épreuve de Dieu, Jésus répond par une autre citation de l'Écriture qui introduit du jeu dans la lecture littérale pour accéder à l'interprétation. Il répond à la provocation par ces mots « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu ». Les évangiles nous racontent l'itinéraire de Jésus comme un chemin qui va inéluctablement vers la mort au nom de la foi en Dieu. On pourrait voir en ce cheminement, mis en scène par les auteurs des évangiles, comme une tragédie dans laquelle il faut que le Fils de l'homme périsse, et donc une apologie du sacrifice de la vie humaine. Jésus alors serait victime nécessaire, expiatoire, pour que tous soient sauvés. C'est une théologie très classique. Le Christ apparaît alors comme ces suicidaires qui cherchent la sanctification dans l'anéantissement de leur propre vie, dont parle d'ailleurs le philosophe Schopenhauer, mais lui pour parler d'une autre religion, celle des hindous. S'infliger une pénitence, écrit-il, volontaire, au milieu de lents et terribles supplices, en vue d'une mortification complète de la volonté, poussée finalement jusqu'à la mort par la faim, ou jusqu'à celle qu'on trouve en allant se jeter au devant des crocodiles, en se précipitant de la roche sacrée du haut de l'Himalaya, ou en se faisant enterrer vivant, ou enfin en se plaçant sous les roues de l'immense chariot qui promène les statues des dieux, parmi les chants et les cris de joie et les danses des bayadères. Et ces prescriptions, dont l'origine remonte à plus de 4000 ans, sont encore observées aujourd'hui. Des préceptes observés si longtemps par un peuple qui compte des millions d'individus, imposant des sacrifices si lourds, ne peuvent pas être une fantaisie inventée à plaisir, mais ils doivent avoir leurs racines dans le fond même de l'humanité. Ajoutons qu'on ne peut assez admirer l'accord qu'il y a entre la conduite d'un ascète chrétien ou d'un saint et celle d'un hindou lorsqu'on lit leur biographie. Et c'est Arthur Schopenhauer qui écrit ça dans Le monde comme volonté et comme représentation. Dans les cas décrits par le philosophe allemand du XIXe siècle, le martyr, celui qui sacrifie sa vie dans un geste au comble du romantisme, le fait pour sa propre sanctification et ne travaille en rien au salut de tous, il meurt. Et comment sa mort pourrait éviter quoi que ce soit aux autres? Il n'est pas question ici de confondre évidemment la question du suicide avec celle du martyr. Le problème est trop grave pour qu'on les confonde. Si l'acte de martyr semble forcer l'admiration pour le courage qu'il semble requérir, ce désir de pénitence, aussi spectaculaire soit-il, n'en est pas moins problématique quand même. Pourquoi ce qui fait la condition humaine même devrait-il être anéanti au nom de Dieu? Quel Dieu, ami des hommes, pourrait vouloir leur anéantissement? Dans le cas de Jésus, les récits évangéliques rendent, par le biais d'une réécriture a posteriori, à faire comme si Jésus s'attendait à sa mort prochaine et la sublimait. Nous ne saurons jamais ce qu'il en était, car lui-même ne semble pas avoir laissé de témoignage personnel écrit par sa main, et nous n'avons que les paroles relatées dans les œuvres de composition que sont les évangiles. Mais le Dieu de Jésus est un Dieu qui adopte l'homme par ses mots « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie ». Alors comment imaginer que Dieu veuille la mort de son enfant? Il nous faut entrer en résistance, mes frères et sœurs, en résistance contre cette tentation à laquelle tant de fois le discours religieux succombe, celle de douter de l'amour inconditionnel de Dieu et de remettre des conditions à l'amour que Dieu promet pourtant gratuitement à l'homme. Il nous faut résister au désir de preuve, là où Dieu nous donne son amour sans condition par pure grâce et où la foi de chacun devrait suffire. Il nous faut sortir de ce chantage affectif dans lequel les religions ont enfermé l'homme et ont imaginé Dieu. Le protestantisme lui-même, après avoir opéré cette réforme extraordinaire et affirmé le salut par pure grâce, a succombé à cette tentation lui aussi. Il en est résulté un puritanisme culpabilisant dans bien des domaines et une culture de la faute propre à donner de Dieu la représentation d'un père pervers à l'égard de ses enfants. Ce Dieu-là n'est pas mon Dieu. Et quand les hommes et les femmes souffrent ou meurent à cause du témoignage qu'ils rendent au règne de Dieu, ce n'est pas par joie ou par plaisir, mais c'est parce qu'ils sont victimes de la bêtise humaine et non victimes expiatoires que Dieu exigerait pour que nous tous nous allions mieux. Le Christ lui-même n'a-t-il pas demandé au seuil de son supplice que le calice qui lui était tendu soit éloigné de lui si cela était possible? Il voulait échapper à la mort. Quand le Christ répond au diable avec les mots du Deutéronome « Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu », il rappelle le commandement « Aime ton Dieu de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence ». Ce qui revient à dire « Aime-le avec ce que tu es, humain, avec tes désirs, avec tes rêves, avec tes espoirs, avec tes désespoirs aussi, avec tes craintes et tes fragilités ». Mais ne doute pas un instant de son amour infini pour toi. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de la vie, frères et sœurs. Même si le Christ, qu'on a reconnu comme son Fils, est mort pour l'avoir enseigné et l'avoir vécu. Si nous sommes filles et fils de Dieu, alors plaçons notre foi dans cet amour sans ruse, qui s'est épris de notre vie et a choisi notre corps pour en faire son temple. La vie humaine est précieuse, frères et sœurs. Nous l'expérimentons chaque jour et nous n'avons aucune preuve à produire pour affirmer notre foi en un Dieu qui l'a béni. Libérés de la tentation de la preuve, nous serons libres alors de servir avec fidélité celui qui a placé son amour en nous. Amen.